Bonjour, c'est Yogindra sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai la chance de vous présenter Geneviève Kouvoutz, qui a reçu de son maître le nom de Mahajyoti. Bonjour Mahajyoti.
Bonjour, bonjour à vos auditeurs également et merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Vous présenter en quelques mots est une tentative risquée, tellement vous avez de facettes différentes que vous avez développées à plusieurs étapes de votre vie. En lisant les trois livres que vous avez écrits, je dirais qu'il y a trois grandes parties dans votre vie, mais vous me corrigerez. D'abord, vous avez été actrice de cinéma.
Oui.
Vous êtes une grande sportive, championne d'escrime et d'équitation, puis de tennis, de natation. Et ces capacités sportives ont été utilisées dans plusieurs films. Et vous avez même été cascadeuse.
Oui, ce qui fait beaucoup rire Jacques Vigne et Vijayananda. Oui.
Puis vous avez exercé en Italie les activités de journaliste, d'attaché de presse, de traductrice-interprète, de photographe, et vous avez prêté votre voix pour de nombreux doublages de films et de dessins animés. Et depuis plus de 20 ans, vous êtes tombée amoureuse de la philosophie indienne et vous consacrez votre temps comme assistante bénévole de Jacques Vigne, que nous connaissons bien ici au Centre Védantique. Il y était présent il y a deux semaines. Est-ce que ce portrait forcément réducteur vous paraît fidèle ? Que souhaitez-vous corriger ou ajouter ?
Ah ben écoutez, votre portrait est parfaitement fidèle et je vous en remercie. Alors oui, en effet, j'ai fait, en récapitulant bien, j'ai fait 6 métiers en 3 langues et dans 3 pays différents. La France, bien entendu, au départ, et puis l'Italie beaucoup et un petit peu les États-Unis. Mmh. Voilà, et je peux ajouter que cet aspect de moi cache une profondeur qu'on ne détecte pas toujours sous mon apparente légèreté, voilà, ou mon humour un petit peu malicieux. Voilà, et puis je pratique aussi désormais régulièrement le yoga, matin et soir, et c'est aussi le yoga, je dois dire, qui m'a sauvé la vie dans plusieurs situations difficiles, et je suis restée, grâce au yoga, sur mon axe mental et physique.
Merci au yoga, il nous fait du bien à tous. Alors, votre mari, Philippe Hersan, était lui-même un acteur connu, et vous avez rencontré des acteurs mythiques, comme Jean Marais, Pierre Brasseur, Michel Simon, ou encore Clint Eastwood, Charlton Heston, etc., vous me direz les autres. Et vous avez Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, et aussi des metteurs en scène célèbres à l'époque, comme Vittorio De Sica, Federico Fellini, Sergio Leone, et plein d'autres. Aux États-Unis, vous avez même rencontré Louis Armstrong. Cela a dû être grisant. Alors, j'aimerais savoir comment l'ego vit-il cela ? Comment votre propre ego s'est-il frotté avec l'ego de ces grands personnages ?
Mon ego, il ne s'est pas frotté vraiment. J'étais, je peux dire, en communion avec eux, tranquillement, artistiquement. Et j'ai été, pour en revenir à Clint Eastwood, sa première attachée de presse à son arrivée en Italie, parce que je représentais son bureau américain de public relations. Et j'ai toujours été passionnée par mon travail et je le suis toujours plus que jamais. Hein. Mais pour en venir à Louis Armstrong, j'ai un souvenir beaucoup plus poignant. Parce que mon compagnon Jean, qui est décédé, qui l'adorait, avait demandé qu'on mette sa chanson à la trompette, What a Wonderful World. Na, 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 na. Voilà. Et il avait demandé ça pour sa cérémonie mortuaire et je n'entendrai plus jamais Louis Armstrong de la même façon désormais. Ça prend toute une autre tournure, bien sûr.
Mais quand même, quelle chance d'avoir rencontré tous ces gens.
Il était merveilleux. Ils étaient tous très, très agréables à fréquenter. Charlton Heston a été un homme absolument merveilleux. Mon mari joue au tennis avec lui et il m'a reçu à Los Angeles avec des petits drapeaux français sur une table et puis d'autres choses pour l'Italie. Il y avait le franco-italien, des drapeaux. C'était très joliment. Il savait que je vivais en Italie, que j'étais française. On a gardé des liens pendant des années. Il a disparu lui aussi maintenant.
Mais donc vous racontez un peu tout ça dans votre livre du cinéma à la spiritualité, mais il me semble qu'il y a une certaine pudeur sur votre vie spirituelle. Vous n'en parlez pas ou peu quand vous racontez ces deux premières époques de votre vie dans le cinéma, le journalisme. Alors, quelle était cette vie spirituelle, si vous voulez bien en parler ? Et qu'est-ce qui s'est passé qui vous a fait partir en voyage en Inde, c'est peut-être trop tôt. D'abord, qu'est-ce que c'était votre vie spirituelle à ce moment-là?
Alors, le livre sur le... Vous voulez savoir pour le livre sur la sur du cinéma
oui, c'est ça.
À la spiritualité.
Il y a une certaine couleur là-dessus, voilà.
Voilà, ce livre-là a été plus une thérapie qu'une biographie, parce que je ne l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit pour faire revivre la carrière de mon mari et celle de mon compagnon. Et il y avait quelqu'un qui faisait une enquête de fond sur Internet pour le... Quelle était l'équipe qui avait fait pendant 20 ans le doublage français à Rome? Et c'est parti de cette enquête sur Internet. Et là, j'ai vu que j'avais envoyé tellement d'éléments. J'ai dit, mais j'ai un livre tout prêt, là. J'ai enchaîné et j'ai écrit ce livre qui a été en même temps une thérapie, parce que pendant que mon ami s'éteignait, j'avais l'impression de lui redonner un peu vie en écrivant sa carrière, en remémorant tout ça et toute l'époque du cinéma italien. Par contre, alors, ce qui a créé ma spiritualité, dès le départ, quand j'avais environ 9 ans, il y avait Raymond Duncan, qui était un Indien d'Amérique du Nord, qui avait ses tuniques tissées par lui-même à Paris, hein, en chanvre. Il avait un bandeau sur la tête et de longs cheveux gris. Il avait les pieds nus dans des sandales, même l'hiver. Et il disait, j'emmènerai petite Geneviève chez les peaux rouges sur la terre de ses ancêtres. Et c'est quelque chose qui avait dû me frapper, parce que il était en même temps reçu par ma marraine qui était Geneviève Desvignes, auteur et peintre de talent, connu, qui a sa rue en Champagne à Suippes et tout ça. Et ma marraine m'avait inculqué également une première spiritualité. Et en troisième, j'ai eu un maître extraordinaire, Costa Greco. Je tiens à le nommer parce que c'était un initié, un grand initié qui avait la myopathie, qui était sur un fauteuil roulant et qui avait dédié sa vie à la spiritualité. Et donc, nous parlions parfois pendant 10 heures d'affilée tous les deux. Et quand Jacques Vigne s'est présenté à moi, eh bien, j'étais prête. Ça avait incubé en moi, j'étais prête. Et on m'avait souvent dit, tu as une vieille âme. Et je pense que si cela est vrai, hein, je pense que si je suis une vieille âme, c'est pas celle d'une femme. Je serais, à ce moment-là, je sens plutôt être un homme âgé, un vieil Indien, peut-être déplumé. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai écrit un très joli poème qui s'appelle « À ma vieille âme » dans mon premier livre « Voyage intérieur ».
Très, très, très joli livre. Vous racontez aussi votre voyage en Inde. Donc, ça fait la transition, parce que vous êtes allé en Inde et grâce à Jacques Vigne, vous avez rencontré Swami Vijayananda, qui vous a donné ce beau nom de Mahajyoti. Ça veut dire grande lumière, mais vous pourrez préciser ce que
oui,
votre nom peut.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Swami Vijayananda? Qui était-il? Quel était son enseignement? Comment parlait-il de son maître, la grande Mahanandamayi? Parlez-nous un peu de lui.
Justement, il était, c'était un homme âgé, il reflétait vraiment l'enseignement de Mahanandamayi qu'il avait vénéré pendant 60 ans et plus, et puisqu'il est décédé à 95 ans, il est allé en Inde vers les 30 ans. Donc, il était le reflet même de l'enseignement de Mahanandamayi qu'il interprétait à sa façon de médecin français occidental. Voilà. Et c'était ce reflet-là. Et moi, quand je l'ai connu, d'ailleurs, j'en parle davantage dans mon premier livre, Voyage intérieur. Quand je l'ai connu, ça a été très drôle parce que nous l'avons connu en chantant. On s'est connu à Cancale. Il tapait avec sa petite main sur les genoux et il chantait « Ma femme est morte, elle ne mettra plus de l'eau dedans mon verre. » Une vieille chanson que m'avait enseignée ma grand-mère. Et quand j'ai chanté ça avec lui, on a tellement ri que le groupe nous regardait avec des yeux effarés. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec Vijayananda. Et bon, après, je l'ai suivi avec vraiment beaucoup d'amour. Je l'appelais tous les mois. Ah, il me disait, on m'appelle. Il y a souvent de jolies femmes qui m'appellent de temps en temps. Il mettait sa main et une grosse écharpe entre l'appareil et lui, parce que c'était un peu sale, un petit peu en Inde, et il était absolument merveilleux. Et j'ai ensuite, il avait aussi cette façon de vous dire qu'il fallait garder la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. ce qui me convenait parfaitement en tant que Gémeaux, hein, en tant que signe du Gémeaux. Et alors, à mon retour en France, voilà, c'est surtout en traduisant également son livre, son très célèbre livre, Un Français dans l'Himalaya, que
Un
j'ai
très beau
traduit
livre,
en
je suis sûr,
italien.
à tous nos auditeurs.
Voilà. Et alors, j'ai compris à fond là son enseignement, encore plus qu'avec lui-même, parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Il nous observait intensément avec ses petits yeux fixes. Il était très jeune, hein, dans son esprit. Et alors, Un Français dans l'Himalaya m'a fait entrer plus à fond encore dans son enseignement. Et nous avons prêté, mon ami Jean qui est décédé et moi, nous avons prêté nos voix de doubleurs de métier à deux livres audio. Un chemin de joie de Vijayananda et Un Français dans l'Himalaya. Nous avons enregistré ça à la demande de Jacques Vigne à la fin 2018 et ça a été pour Jean le chant, vraiment le chant du peuple parce que c'était une forme d'Alzheimer qui se présentait en lui. Donc ça a été ses dernières cartouches. Il a mis tout son cœur là-dedans en sentant déjà que peu à peu il perdait pied. C'est très émouvant pour moi et c'est un souvenir de Vijayananda. Ananda inoubliable.
Bien. Et donc, vous décrivez l'Inde spirituelle de manière très vivante dans votre livre sur Jacques Vigne, qui s'appelle Une vie de passeur entre l'Orient et
De
l'Occident.
passeur.
De passeur, oui.
De passeur.
De passeur. C'est très vivant et touchant. En tout cas, pour moi, qui ai visité les mêmes lieux en Inde que vous, avec le même Jacques Vigne, quelques années plus tard, pour moi, c'était très vivant. Ça a rappelé tellement de souvenirs. Mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a attiré en Inde? Quel message retenez-vous de l'Inde? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Et, dire la vérité, je ne pensais pas aller un jour en Inde. C'est l'enseignement de Jacques et le fait de vouloir le suivre à tout prix. C'était comme si je suivais le Messie, je mettais mes pas dans les siens. Je le raconte dans le livre au début. Et cette motivation a fait qu'il m'a choisi. Il m'a appelé très rapidement. Il m'a demandé de l'aider pour des voyages, etc. Et alors, pour moi, l'Inde a été un très grand choc intérieur à différents niveaux. J'y suis retournée 7 fois, dont 2 fois toute seule. Et comme message de l'Inde, je peux dire que je retiens l'intériorité, la maturité. Et puis l'éclosion de ce qui mûrissait en moi à l'intérieur. J'étais prête. L'Inde et Jacques Vigne m'ont ouvert les bras et j'ai pris à bras le corps moi-même.
C'est formidable. L'Inde a
Ah, des
transformé
miracles.
beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Moi aussi,
Ouf.
on peut vraiment partager ça.
Ah oui.
Et puis, je voudrais aborder une autre facette de vous-même, qui est que vous êtes une artiste. Vous êtes poète et peintre. Vos livres sont émaillés de vos poèmes, présentent de très belles illustrations réalisées par vous. Alors, depuis quand la poésie et la peinture vous animent-elles? Est-ce que c'est la spiritualité indienne qui a éveillé ce talent en vous ou c'était déjà en vous bien avant?
C'était déjà en moi, oui, c'était déjà en moi, parce que vers l'âge de 7 ans environ, plus ou moins, là, c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, à faire mes premiers petits dessins, etc. Et je me souviens, on me destinait aux beaux-arts à l'époque. Bon, ma vie a bifurqué d'une autre façon, mais j'avais de qui tenir parce que ma mère était chansonnière, auteur, compositeur. Et ça ne se faisait pas encore beaucoup à l'époque, il n'y avait pas encore comme maintenant. Et puis ma grand-mère, qui est décédée à 104 ans, est restée une encyclopédie vivante jusqu'à ses 104 ans. Elle était extraordinaire. Et j'ai été élevée dans l'art sous toutes ses formes. Et ce qui fait que quand l'Inde est arrivée avec son enseignement, eh bien ça a parachevé le travail de Mahanandamayi, qui a été pour moi une source d'inspiration phénoménal. J'ai dévoré ses livres, ses écrits, et je me sentais comme protégée et inspirée, comme dans un vertige, un tourbillon. Je me levais à 3 heures du matin pour écrire les poèmes. Il fallait que je le fasse. Et quand j'ai fait son portrait, on me l'a abîmé, on me l'a strié de barre quand je l'ai fait copier. Et j'ai pleuré de chagrin, j'ai mis toute une nuit entière à le reconstituer trait par trait à la sanguine avec le crayon et la sanguine que je gratte sur le papier, que j'étends avec du coton hydrophile et que je dessine ensuite avec le crayon et la gomme pour faire les méplats, les ombres. Et voilà, c'était très beau. Donc j'avais ça en moi depuis le départ et l'Inde m'a, Vijayananda et Jacques ont parachevé le travail.
On fait germer en vous cet artiste qui était déjà là et qui...
Qui était déjà là et qui a bien germé avec grand bonheur.
Et vous avez une autre facette de caractère, vous le dites souvent, vous aimez rire. Alors ça me fait penser au double sens du mot spirituel. Donc quel lien faites-vous entre Mahajyoti, super chercheuse spirituelle de vérité, et Mahajyoti spirituelle qui aime rire et qui pratique l'humour?
Eh bien, justement, ça me joue des tours d'ailleurs, parce qu'on me voit enjouée, souriante, et on ne perçoit pas toujours le double personnage ou triple ou multiple qui est du. Je répète le signe des Gémeaux, on est très multiple, on est très diversifié et éclectique. Et j'avoue que ce côté rieur, parfois, m'a joué des tours. On ne croyait pas toujours à ce qu'il y avait derrière. Mais de plus en plus, je vois que c'est compris. C'est comme si une aura se créait autour de moi. Ça doit être encore un miracle demain, parce que je reçois des retours tellement chaleureux que ça me touche beaucoup.
Très bien. Et puis, bon, je voudrais arriver à notre ami Jacques Vigne. Pour moi, Jacques Vigne, j'aime bien dire, bon, je caricature un peu et c'est très réducteur, c'est les canaux d'énergie, narines ouvertes, narines fermées, c'est la main de lumière qui sont des outils vraiment très utiles qu'on peut utiliser. Donc, c'est vraiment, Jacques Vigne, une boîte à outils de méditation. Mais, quel trait marquant avez-vous envie de donner de votre grand ami Jacques?
Ah, la rigueur,
La rigueur.
la rigueur. Pour moi aussi, c'est valable. Nous nous sommes rencontrés avec la rapidité d'exécution et cette rigueur de fond, lui aussi. Chez Jacques, je vois l'énergie du bélier conducteur qui ne recule devant rien, qui fonce dans tout. Et puis, une chose qui nous est commune aussi, l'humour.
Bien sûr.
L'humour chez Jacques qui ne gâte rien et ce mélange extraordinaire du scientifique et du mystique de l'Orient et de l'Occident. Voilà. Aussi, sa profondeur et qui, malgré cela, son enseignement reste accessible à tous et son indépendance farouche. Ça, je l'ai bien senti dans ses réponses et dans son attitude et son exquise modestie. Ça, c'est extraordinaire, c'est le signe d'un grand. Quand je lui dis, ah, la première fois, je lui dis, oh, tu es un vrai grand. Il m'a répondu, oui, 1,92 m.
Et moi,
Et
j'ajouterais volontiers
puis, je lui
sa
trouve aussi,
générosité. Hein.
je lui trouve la générosité et je lui trouve aussi parfois la candeur d'un enfant.
Oui.
Son éditeur, Marc de Smet, l'a souligné dans une interview aussi. C'est très beau. Pour un homme de sa trempe, de garder ce côté extraordinaire.
L'heure tourne, il va falloir qu'on mette une conclusion à cet entretien. Je vous remercie beaucoup, Maggiotti, pour cette
Moi.
conversation. Peut-être que vous avez envie d'ajouter quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, moi,
Oh
j'ai ajouté
là.
quelque chose.
Eh bien, je dirais, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie.
Oui.
Hein? À l'envers?
Veux dire que pour nos auditeurs, si ça leur a donné l'envie pour mieux vous connaître, je donne les titres de vos 3 livres. Hein. D'abord, c'est Le Voyage intérieur aux éditions du Petit Véhicule. À Nantes, témoignage touchant et poétique de votre expérience spirituelle en Inde, vous en avez parlé. Puis votre autobiographie, du cinéma à la spiritualité, également aux éditions du Petit Véhicule. Et puis votre témoignage sur Jacques Vigne, une vie de passeur entre l'Orient et l'Occident, aux éditions Ovadia à Nice. Merci,
Merci.
Madhyoti, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis,
Merci.
à continuer à écrire, à peindre, à faire vivre la poésie et faites-nous en profiter encore un jour.
Et à aider les autres. C'est
Oui.
surtout ça. À aider les autres. Je vous remercie.
Merci, au
Merci
revoir.
infiniment. Au revoir, Gemma.
Jaima.